Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1. Vous êtes en compagnie de
Mathéo Wehmann
et de Lily Bizel, élèves de terminale au lycée Raoul Follereau. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale en compagnie de Monsieur Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération et conseiller général de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons donc le plaisir de le recevoir et au cours de cette émission, nous allons aborder divers sujets d'actualité tels que les élections présidentielles, la guerre russo-ukrainienne ou encore des questions sociales et environnementales.
Bonjour Monsieur Thuriot, comment allez-vous ?
Eh bien bonjour, je vais bien, je fais une petite rectification, je me permets, je suis conseiller régional, pas général. Général c'est le département et je suis à la région. Je ne voudrais pas qu'il y en ait certains qui s'inquiètent quand j'arrive au département ou qui s'en réjouissent, je ne sais pas. Mais voilà, je vais bien vous aussi ?
Oui, ça va.
Okay.
Donc nous allons commencer par vous poser des questions sur les récentes présidentielles. Tout d'abord, nous avons pu observer une montée des extrêmes lors de ces élections présidentielles, notamment avec les résultats du second tour où Madame Le Pen a récolté plus de 41% des voix. Que pensez-vous de cette montée des extrêmes et quelles seraient selon vous les conséquences de ce phénomène sur la France ?
Je pense que c'est inquiétant, en même temps c'est pas nouveau, hein. Ça date des années 80, simplement on se dit toujours que voilà, c'est là, c'est à prendre en compte et en même temps que ça ne passera pas, et si un jour ça passe, ça serait terrible pour notre pays, hein. Ça serait la réduction de beaucoup de choses, et notamment sur le plan économique à l'international et puis aussi évidemment au national. Mais je le dis aussi, je suis sur une radio et je parle pas de cette radio-là, mais les médias en général font beaucoup trop de place à l'extrême droite, parfois à l'extrême gauche aussi, parce que finalement les extrêmes se rejoignent, on le voit sur pas mal de sujets. Et avant que la campagne soit officielle, regardez la place qui a été faite à Éric Zemmour, complètement disproportionnée par rapport au score qui a été fait. Les médias, certains médias jouent avec le feu. Si un jour l'extrême droite passe, ce sont les premiers qui en feront les frais, parce qu'en général, l'extrême droite n'aime pas trop la presse. Et d'ailleurs, on le voit, Marine Le Pen choisit les journalistes qu'elle veut avoir ses interviews. Donc je dis attention. Après, c'est aussi la résultante d'un certain nombre de politiques où on a oublié les territoires. Je soutiens le président de la République, vous le savez, je soutiens l'actuel gouvernement, et je peux dire qu'il y a eu des choses de fait. J'en suis témoin, parce que j'essaie d'être objectif, je suis avant tout le défenseur de mon territoire, et je reconnais qu'il y a quand même eu des efforts de fait, mais c'est aussi la résultante d'un oubli de la province pendant des années, et on a tout voulu centraliser dans les grandes villes, et on n'a pas eu le prix, parce que les gens se sont sentis déconsidérés. Je pense que la plupart des gens ne sont pas des fascistes, hein. Il y a une branche de fascistes qui vote extrême droite, mais les autres le font souvent par désespoir ou parce qu'ils se sentent incompris, donc c'est aussi à nous et au gouvernement actuel peut-être de modifier certaines choses et de rassurer les gens comme quoi on peut ne pas être d'extrême, mais on peut aimer son territoire et on peut aimer les gens et vouloir faire le bien pour eux. Je pense que l'extrême n'est jamais une solution et rappelons-nous aussi que les extrêmes, ça fait des guerres. Le nationalisme, c'est la guerre, c'est François Mitterrand qui l'a dit avant moi.
D'accord. Récemment, la gauche s'est unifiée lors des législatives pour former la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pensez-vous que cette union représente un adversaire de taille face au mouvement politique, notamment face à Renaissance ?
D'abord, j'en profite pour les dénoncer aujourd'hui. Ils collent partout là où c'est interdit. Actuellement à Nevers, NUPES colle partout, je vous le dis. Donc je vais les verbaliser et je vais le dénoncer sur les réseaux. À ceux qui se revendiquent écologistes et solidaires, la première des choses, c'est de respecter les panneaux. Moi, je suis pas d'une obédience politique écologiste, mais pas pour ça que je m'intéresse pas à l'environnement. Mais j'ai toujours fait respecter par mes équipes les lieux où on a le droit de coller. Là, il y en a partout. Donc ça va sortir sur les réseaux. C'est inadmissible. C'est pas ça qui fait être élu d'ailleurs, mais ça salit les choses et je vais facturer, parce que d'autres villes le font, le coût de nettoyage de mes agents, de ces affiches qui n'ont rien à faire sur les ponts, sur des endroits qui ne sont pas là pour recevoir des affiches. Ça, je tenais à le dire parce que ça m'agace et c'est depuis hier qu'on constate tout ça. Sur la gauche, moi vous savez, je suis quelqu'un qui vient de la gauche, hein, j'étais au Parti Socialiste pendant longtemps, je suis sorti de tous ces clivages qui ont sacrifié des projets parce que c'était de droite, c'était de gauche, etc. Pour moi, le bon sens, c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir des affinités, des tendances, des orientations, mais moi je ne suis plus là-dedans. Maintenant je considère, et je suis triste pour mes anciens camarades socialistes, comme on dit, qui se sont compromis. Voilà, c'est pas un compromis, c'est une compromission qui a été faite. Aujourd'hui, le Parti Socialiste n'existe plus. Regardez dans la Nièvre, qui était quand même une terre socialiste, et qui pouvait le rester, parce que moi j'ai aussi des gens dits de gauche, en tout cas d'origine de gauche avec moi, donc je ne suis pas contre la gauche, mais je suis pour le en même temps, et on peut faire les choses intelligemment en travaillant avec des gens raisonnables et raisonnés, évidemment pas avec les extrêmes. Donc oui, je considère qu'aujourd'hui c'est la fin du Parti Socialiste, qui en naîtra peut-être autrement un jour, je n'en sais rien, et je ne suis plus là pour m'en occuper, mais on voit qu'aujourd'hui vous avez zéro candidat socialiste dans la Nièvre, et que Monsieur Mélenchon est un mégalomane Poutine qui porte les choses plus pour lui que pour les autres, dénonce les riches alors qu'il en fait partie. Au bout d'un moment, faut être cohérent. Et moi, je dis attention, la gauche, elle est aussi ailleurs, elle est aussi dans Renaissance. Il y a un courant que j'appartiens aussi qui s'appelle Territoire de Progrès, qui d'ailleurs a beaucoup de gens qui accueillent des gens dits socialistes ou d'origine socialiste qui ne se retrouvent pas dans un extrémisme de Monsieur Mélenchon, qui est très ambigu sur la laïcité, alors que c'était quand même une forte valeur de la gauche, qui est très ambigu sur son rôle avec la Russie. Et c'est pas compliqué d'aller sur Internet, j'imagine que vous le faites, voir Monsieur Mélenchon qui fait l'apanage de Monsieur Poutine, qui dit même qu'il faut s'en inspirer. Aujourd'hui, évidemment, ça le gêne, mais moi je rappelle tout ça parce que ça reste dans l'histoire des gens. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas la gauche, c'est une extrême gauche qui essaye de survivre et qui a avalé, absorbé des Verts qui ont parfois des politiques intéressantes à condition de ne pas être radical et de bloquer le développement économique, parce que ça, les gens n'en veulent pas, on le voit bien par rapport au score à la présidentielle, et puis des gens socialistes modérés qui ne se retrouvent pas dans la NUPES et qui au mieux nous disent qu'ils s'abstiendront, voire voteront Renaissance ou via Territoire de Progrès pour l'actuel gouvernement, qui a aussi une politique, si on veut encore classifier, dite de gauche. Jamais un gouvernement n'a autant aidé les salariés que pendant la crise, jamais. Jamais. Donc, si on veut encore se référer à des anciennes valeurs de gauche ou de droite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui pourraient être cataloguées de gauche par le président de la République et son ancien gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre actuelle, vient de la gauche, d'autres ministres aussi. Donc voilà, les gens dits de gauche qui ne se retrouvent pas dans un sacrifice exagéré, dans une compromission pour élire un Premier ministre, on n'élit pas un Premier ministre. Vous faites Sciences Po, vous préparez Sciences Po, vous le savez, se revendiquer sur des affiches déjà des députés pour certains qui ne le sont pas, ou Premier ministre alors qu'ils ne le sont pas, c'est tromper un peu les lecteurs. Mais enfin, les gens ne sont pas des idiots.
Dans votre réponse, vous évoquez le conflit russo-ukrainien qui a une énorme place dans l'actualité. Et donc, depuis février 2022, les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont refait surface et ont entraîné une nouvelle guerre. Et ce conflit a donc des conséquences démographiques et entraîne l'émigration de milliers d'Ukrainiens. Est-ce que l'agglomération de Nevers est ou serait prête à accueillir des migrants ?
Oui, mais si vous le permettez, je voudrais revenir quand même avant, puisque c'est une partie qui concerne l'actuelle candidature aux législatives. Je voulais juste insister sur une chose. Chacun votera ce qu'il veut. Je dis simplement qu'aujourd'hui, retomber dans une cohabitation, ce serait terrible. Ça serait 5 ans fichu. Ça serait 5 ans de d'opposition à un président de la République. Et je pense qu'à partir du moment où les Français ont décidé de leur donner leur confiance, c'est ça la démocratie, on est d'accord ou pas, mais c'est ainsi. Mais il faut lui donner une majorité aux législatives. On est là pour parler de politique, donc j'en parle. Hein. Et c'est toujours intéressant de le dire. Mais je dis attention aux Français de prendre le risque de nommer un Premier ministre qui ne serait pas dans l'obédience de Renaissance, ou en tout cas du courant de la majorité présidentielle, des courants de la majorité présidentielle, parce qu'il y en a beaucoup dans lesquels chacun peut se retrouver. Ça serait faire régresser notre pays et le condamner dans une espèce de forme d'immobilisme pendant 5 ans, et je pense que tout le monde le regretterait in fine. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège. Après, vous évoquez un conflit qui malheureusement est terrible, et pendant qu'on parle, il y a des gens qui meurent, qui sont torturés, qui sont exécutés, abattus. On voit que certains Russes se comportent comme le se comportaient les nazis, hein, faut le dire, et on a tous appris notre histoire, on est trop jeune pour avoir vécu la Seconde Guerre mondiale. On espérait simplement que ça ne sort pas jamais. Et moi, j'invite d'ailleurs, et j'invite aussi le monde enseignant, à emmener tous les jeunes lycéens ou collégiens vers 15 ans, 14-15 ans, à visiter un camp de concentration. Moi, je l'ai fait en 3e, ça m'a marqué à vie. J'en ai fait d'autres après en tant qu'élu. Vous ne ressortez pas indemne, mais vous comprenez mieux l'histoire, comment on en est arrivé là, de façon très insidieuse. Et vous parliez d'extrême droite tout à l'heure, voilà, attention à ces dangers-là. Jamais on aurait cru que ça reviendrait. Et quand je discute avec des gens qui avaient connu cette période, et il y en a de moins en moins, l'âge passant, jamais certains pensaient qu'ils auraient à revoir des choses et à revivre une guerre. Et tous ces dérapages, les gens qu'on envoie, semble-t-il, en Sibérie ou je ne sais pas, dont on n'entend plus parler, enfin, c'est ce qui se passait quand on envoyait les gens dans des camps de travail ou dans des camps d'extermination. Et tout ça, on est à peine 80 ans après cela, qui a touché à peu près toutes nos familles, les uns les autres, qu'on soit d'origine juive ou pas. Donc c'est terrible ce qui se passe, et évidemment on ne peut qu'être solidaire avec l'Ukraine qui est attaquée, et je suis atterré de voir que la Russie essaye de renverser les choses en disant que c'est l'Ukraine qui se rend coupable de crimes contre l'humanité, qui abat des Russes, mais c'est les Russes qui essayent de prendre un pays souverain. Et donc, voilà, on est dans une situation qu'on n'a peut-être pas vu venir, qu'on a sans doute un peu trop laissé faire aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on est tous en danger quelque part si les choses dérapaient. Donc c'est pour ça que je dis aussi que entre un monsieur Mélenchon qui fricoter avec le régime de Monsieur Poutine et un Emmanuel Macron qui soutient très clairement l'Ukraine tout en essayant de garder un dialogue pour éviter qu'on passe au pire, il faut faire le bon choix. Parce que sur la scène internationale, je pense qu'Emmanuel Macron a eu un grand rôle qu'on lui reconnaît et qu'il peut continuer, qu'il doit continuer. Après, sur notre rôle à nous de collectivité, évidemment, c'est d'être solidaire de l'Ukraine. Mais il suffit pas de le dire, il faut voir comment on peut le traduire. Et être solidaire de l'Ukraine, c'est aussi, vous voyez, à Nevers, on a beaucoup de jumelage, hein. C'est important, parce que ça veut dire qu'on est ouvert depuis longtemps aux autres pays d'Europe, voire hors de l'Europe, je pense à la Tunisie par exemple, ou au Québec, puisqu'on maintenant que le CIM, on a un jumelage aussi thématique autour de l'innovation. Mais voyez, on a un jumelage avec Minsk. La Biélorussie n'a pas condamné la guerre contre l'Ukraine. Donc c'est compliqué garder des liens forts en ce moment. Et évidemment, je comptais me rendre en Biélorussie, je n'irai pas en l'état. Par contre, le jumelage, on m'a interrogé, j'ai échangé avec le président qui ne soutient pas la guerre, qui veut même aider l'Ukraine. Donc, il faut distinguer les politiques gouvernementales des choses qui se font. Et d'ailleurs, couper les populations entre elles, ça n'arrange pas la guerre. C'est au contraire par les populations qu'on arrive parfois à arrêter des guerres et à les dénoncer, en tout cas dans ce qui se passe là-bas. Et donc, voilà, on a aussi un jumelage avec la Pologne qu'on aide parce qu'à Chedolche, au nord de Varsovie, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Ukraine, qui ne sont pas tous ukrainiens. Il y a aussi beaucoup de Syriens en Ukraine. Donc, on les aide. On a fait organiser plusieurs convois, soit qu'on prend en charge, soit, et je remercie les entreprises, par exemple, comme Luke, qui a pris en charge un déplacement. Il y a une autre personne à titre privé qui nous a prêté un véhicule, un camion. Donc voilà, l'aide, elle est évidemment morale par l'éclairage du pont noir aux couleurs de l'Ukraine, par le drapeau ukrainien qui flotte devant la mairie depuis le début du conflit, par aussi un certain nombre de déclarations de soutien. Et puis elle est à travers les peuples surtout et les gens qui ont des réseaux avec l'Ukraine. Donc voilà, Nevers prend sa part et c'est bien normal. On essaye d'aider et d'accueillir aussi, hein. On s'est toujours positionné, et en tout cas depuis que je suis élu, on a été une des premières villes à accueillir des personnes syriennes au moment du conflit en Syrie. On essaye d'accueillir des Afghans, ça n'est pas facile, mais on a quelques communautés afghanes à Nevers et qui sont très inquiets sur l'avenir de leur famille. C'est terrible ce qui se passe en Afghanistan. On parle de l'Ukraine, mais aujourd'hui en Afghanistan, ce qui avait été promis par les talibans, y compris que les filles ou les jeunes femmes puissent aller à l'école, c'est fini. On le voit, et certaines se font menacer, voire disparaissent. Enfin, c'est terrible. On est dans un monde de fous, hein, comme on dirait, qui régresse énormément sur la paix et les libertés. Donc prenons garde à cela, et c'est pas dans les extrêmes qu'on trouve la solution. Jamais. Jamais. Donc voilà, pour l'Ukraine, on a pas mal de familles aujourd'hui, donc on accueille, soit dans des logements de la ville qu'on a meublés, et je remercie la générosité des habitants de la Nièvre, hein, qui ça va au-delà de la ville de Nevers, de l'agglomération. On a été envahi, mais c'est pas le bon terme parce que c'est très positif. On a eu un apport de mobilier, de vêtements, médicaments, c'est plus compliqué parce que les règles sanitaires empêchent de les envoyer. Mais voilà, je remercie à nouveau tous nos habitants. Évidemment, ça s'est un peu ralenti et tant mieux parce que ça ne tenait plus et il y a moins de besoins aujourd'hui. On fera savoir évidemment s'il y a d'autres besoins et notamment par rapport aux habillements plutôt d'été parce que la température en hiver est froide. On était plutôt sur des vêtements chauds. Mais voilà, je pense qu'on a fait comme beaucoup de villes. On a essayé d'aider à notre niveau. Et je pense qu'au-delà de la symbolique, ça a aussi aidé des personnes d'origine ukrainienne qui ont fini par arriver en Europe.
Et donc, toujours en ayant en tête d'apporter notre soutien aux victimes de cette guerre, comment les habitants de l'agglomération et de tous les âges peuvent aider les personnes en difficulté à la suite de ce conflit? Est-ce que Nevers effectue différentes collectes ou encore est en partenariat avec des organismes?
Oui, bien sûr. Alors, on est en lien avec le consulat, hein, qui récolte notamment les fonds. Et puis il y a aussi, on avait ouvert une salle, on a mis à disposition la salle des douanes, ce qui a beaucoup servi pendant la Covid, la vaccination, au dépistage, etc. Et là, du coup, maintenant, évidemment, les dons se sont amoindris, il y avait moins de besoins. Donc aujourd'hui, on collecte toujours à Nevers agglomération, plutôt des choses pour enfants, hein, notamment de l'alimentation, des couches, des choses comme cela, et puis un peu de vêtements. Si on avait besoin d'autres mobiliers pour nos appartements, on vous le dirait, parce que ça tient de la place autrement. Voilà, globalement, ça, on continue évidemment d'être attentif, et puis voilà, et vivement la fin de la guerre. Ça ne résoudra pas tout, mais au moins les gens pourront retourner chez eux, parce que la plupart ont envie de retourner chez eux ou trouver un travail en attendant. Et j'essaye vraiment de trouver, moi, les gens qui ont envie de travailler. Il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui sont dans la peine, il y en a qui sont démoralisés, on peut le comprendre, mais il y a des gens aussi qui ont envie de travailler pour leur dignité, pour garder un rythme, pour gagner un peu d'argent aussi et pas être que trop dépendant. Donc voilà, on a largement vu le nombre de difficultés de recruter dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de domaines, on a largement de besoins, et si on peut les aider aussi à ce qu'ils aient des revenus propres le temps qu'ils sont en France, on le fera. Donc, vous voyez, ça passe par un accompagnement, ça passe aussi, j'oubliais, par le recrutement à la ville. On a recruté deux personnes de mi-temps qui gardent des équipements de la ville de Nevers et qu'on loge aussi dans nos appartements, qu'on met parfois à disposition des artistes. Donc voilà, je pense qu'il y a une grande solidarité, que la ville est dans l'accompagnement aussi de tous ceux qui veulent la faire.
D'accord. Et enfin, pensez-vous, pour finir, que la politique française face à cette guerre est efficace? Si vous pouviez prendre une décision concernant ce conflit, que souhaiteriez-vous faire?
C'est compliqué aujourd'hui. Je pense que Vladimir Poutine est allé trop loin. Il s'est discrédité sur la scène internationale. Et moi, je vous cache pas que je suis pas aux ordres, hein, mais j'admire le président de la République d'arriver encore à discuter avec lui. Vous avez vu encore un journaliste qui a été tué alors qu'il était dans un convoi humanitaire et qu'on n'attaque pas les convois humanitaires en temps de guerre, qui était très visible. Donc c'est scandaleux. C'est une négation de la nature humaine de faire cela. Donc je sais pas, il n'y a pas de solution magique dans ces cas-là. Je pense que ça ne passe pas par la fermeture de tout dialogue. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi notre président et d'autres? J'ai vu que le président allemand l'avait fait avec lui, président de l'Union européenne aussi, voilà. Mais de toute façon, rompre un dialogue, ce serait terrible, parce que du coup, on ne maîtriserait plus du tout ce qui peut se passer. Alors, il y a beaucoup de propagande, hein. Les Russes menacent de détruire la côte est des États-Unis, menacent de détruire la Finlande, où j'étais il y a quelques mois, voilà. J'espère que ce ne sont que des mots, mais si ça dégénère très vite, ça sera la fin du monde. Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Donc la solution, elle viendra peut-être par l'intérieur, et peut-être que certains Russes, certains oligarques russes qui perdent beaucoup à l'international, qui vont voir leurs avoirs gelés, leurs biens, maisons, voitures, bateaux aussi. Hein. On sait qu'il y en avait beaucoup dans des lieux assez d'exception, on va dire, hein, au bord de la mer ou à la montagne. Peut-être que la solution drainera par l'intérieur, où les gens vont se rendre compte que l'avenir de la Russie, c'est sûrement pas de se comporter ainsi avec des pays proches.
Je vous remercie pour cet avis sur le conflit russo-ukrainien. Nous allons poursuivre cet entretien après une pause musicale. Reach out, touch faith.
You're wrong.
Nous sommes de retour sur BAC FM. Vous êtes toujours en compagnie de Matteo Wehmann et de Lily Bizel, ainsi que de notre invité, Denis Turiot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération et conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Maintenant, avec ma camarade, nous voulions nous intéresser aux questions qui ont fait débat ces derniers temps. Notamment, en mai dernier, le maire de la ville de Grenoble, Éric Piolle, a autorisé le burkini dans ses piscines municipales, ce qui a suscité une forte polémique. Cependant, cette décision a été suspendue par la justice car elle portait atteinte au principe de laïcité. Pensez-vous vraiment que cette initiative porte atteinte à la laïcité française et seriez-vous prêt à l'autoriser dans les piscines municipales de l'agglomération de Nevers ?
Pour votre dernière question, hors de question. Hors de question. Et vous voyez, quand on a fait notre nouvelle piscine intercommunale, l'Aquabalt, on m'a demandé des séquences pour les femmes, des séquences pour les naturistes. Bon, les naturistes, à la limite, c'est le droit. La difficulté, c'est de rester dans la pudeur et de pouvoir occulter les grandes vides. C'est plus compliqué. Donc voilà, mais ça, ce n'est pas un problème de laïcité. Par contre, de réserver des temps uniquement aux femmes, c'est hors de question. On est dans un pays laïque, mixte. Les écoles de filles et de garçons, c'est fini, et heureusement. Et chacun doit avoir sa place ensemble. C'est ça, le bien vivre ensemble, c'est aussi entre les sexes. Et les personnes non-genrées, maintenant aussi, les personnes transsexuelles, etc. Bon, donc, je connais Éric Piolle, j'ai déjà rencontré, j'ai eu l'occasion de faire un voyage avec lui. Je connais bien Grenoble, où j'ai vécu aussi. Et je pense qu'il se fourvoie. C'est pas la solution. D'abord, c'est illégal. On va attendre des décisions de justice. Vous savez que je suis juriste à la base, donc je respecte les décisions de justice, mais ça m'apparaît très aberrant que la justice valide cela. Et les décisions portant la provocation, faisant monter les extrêmes, c'est exactement l'exemple, à mon avis, de ce qu'il faut pas faire. Et franchement, chacun a le droit d'avoir le maillot de bain qu'il veut. Et encore, vous voyez, dans les piscines, souvent, hein, pour les garçons, pas de short, voilà, il faut que ça soit en tenue correcte. Le burkini, c'est pas qu'un maillot de bain plus complet, c'est aussi un signe religieux, et c'est un signe aussi d'effacement de la femme, quelque part derrière le vêtement, et je pense que c'est pas la France. C'est pas ça la France qu'on a construite, que ce soit la droite ou la gauche. Et ça me semble un recul énorme des droits, et notamment des droits des femmes. Il faut qu'on puisse cohabiter les uns les autres. Et le burkini est une façon d'annihiler le corps féminin, on va dire les choses. Et donc, je pense que ça n'est pas effectivement une solution à poursuivre. Ou alors, comme quelqu'un l'a dit avec peu d'ironie, mais je pense que l'humour, on peut le faire dans tout, en tout cas dans beaucoup de choses, que M. Piolle mette un burkini à ce moment-là, si ça lui va aussi. Mais plus sérieusement, voilà, je pense qu'on est dans un faux débat, on est dans quelque chose qui fait perdre du temps, de l'énergie et qui monopolise la justice aujourd'hui. Je pense qu'il y a de quoi être couvert correctement dans une piscine, qu'on soit un garçon ou une fille, mais sûrement pas par le burkini, qui est une façon, encore une fois, une tendance à séparer des gens plutôt qu'à les réunir. Et donc, c'est pas ça, comme on dit, le bien vivre ensemble.
Mais les femmes, certaines femmes ont le choix de porter le burkini, c'est un choix personnel, c'était le port du voile est autorisé dans l'espace public. Vous pensez aussi que c'est une manière de séparer les personnes, de porter le voile dans l'espace public ou pas ?
Non, pas forcément jusque-là. Par contre, il y a quelque chose qui doit primer, et ça, c'est pas l'apogée des extrêmes que de dire ça. Moi, quand je me rends dans un autre pays, je m'adapte aussi à sa culture. Hein. Et donc, la France et judéo-chrétienne, elle est avant tout laïque. Et il fut un temps où la religion était portée aussi au niveau du pouvoir, ça n'est plus le cas. Et donc le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des Cultes, doit veiller la laïcité, si on la résume, c'est très compliqué d'avoir une vraie définition de la laïcité, mais la laïcité, si on la résume très simplement, c'est aussi le fait de permettre à chacun d'avoir une religion, de ne pas en avoir. Et c'est aussi le fait à chacun de ne pas être gêné par les signes religieux des autres. On peut avoir un signe religieux discret. Une femme en burkini dans une piscine, c'est pas discret. Et si vous y allez, si on est pragmatique, qu'est-ce qui va se passer? On va passer son temps à la regarder et se dire, la pauvre, qu'est-ce qui se fait? Parce que c'est pas notre culture. C'est pas notre culture. Les femmes ont le droit de vote en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les femmes ont les mêmes droits. Je ne pense pas que ça soit une vraie liberté de choix, le burkini, en réalité. Et effectivement, je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui le veulent vraiment, mais elles marquent un signe religieux fort. Or, une piscine, on n'est pas là pour faire de la religion. Donc, il y a peut-être des endroits où on peut mettre un burkini. C'est leur choix. Puis, il y a des endroits où on doit être, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, habillé dans des conditions qui correspondent aussi à la culture du pays. Et moi, c'est quand je vais dans un certain pays où on me demande d'enlever mes chaussures parce que je suis dans une mosquée, je le fais. Je dis pas que je suis français, que j'ai pas envie d'enlever mes chaussures. Voilà, donc on pourrait prendre des tas de contre-exemples. il faut arriver à respecter tout le monde, mais il faut aussi que chacun respecte les valeurs. On a parfois des cultures différentes. Et encore une fois, je suis pour l'accueil de beaucoup et je défends encore beaucoup de gens pour les aider à avoir des papiers. Donc, je vois beaucoup de cultures passer dans mon cabinet d'avocat. Donc, personne ne me taxera d'être raciste ou d'être, de ne pas vouloir de l'immigration raisonnable. Mais pour moi, c'est pas un signe de liberté de choix. C'est plutôt un empêchement d'avoir le choix. Et je pense que certaines qui revendiquent d'avoir vraiment ce choix-là, c'est aussi sûrement parce qu'elles sont issues d'une culture où on leur a fait croire cela. Hein. Et un conditionnement quelque part souvent. Donc voilà, je pense que c'est pas la solution et que chacun se respecte avec une tenue qui corresponde aussi au pays où l'on est. Ce que je fais moi quand je me rends dans d'autres endroits.
D'accord. Toujours lié à cette polémique, que pensez-vous de la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a été de couper toutes les subventions régionales à la ville de Grenoble?
Je pense que c'est une réaction. Est-ce qu'elle est excessive? Sans doute un peu. Je pense qu'il faut discuter, il faut qu'Éric Piolle revienne à la raison. Je sais pas si c'était pour faire le buzz, je sais pas si c'était pour la provocation, mais je le disais tout à l'heure, moi je suis un combattant de l'extrême et notamment de l'extrême droite. Hein. Je me suis toujours revendiqué comme cela et j'ai la naïveté de penser que si j'avais pas porté mon mouvement Le Vert Avenir à l'époque, qu'on aurait une extrême droite beaucoup plus forte parce que des gens ne se retrouvaient pas dans les partis traditionnels qui déclinaient déjà. Donc j'ai proposé une autre solution qui n'est pas celle des extrêmes. Et Éric Piolle tombe dans une forme d'extrémisme, donc il a tort. Maintenant, ils sont très opposés sur l'échiquier politique, il y a aussi des règlements de compte, on va dire les choses comme cela. Je pense que ça serait bien qu'il y ait un dialogue qui soit repris. On ne peut pas concevoir qu'une ville comme Grenoble ne soit plus aidée par la région à laquelle elle appartient, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant qu'il y ait une réaction par rapport à cela, moi je dis toujours, hein, quand on fait quelque chose, ça entraîne forcément des conséquences. Tantôt, il faut les assumer. Donc s'il y a un petit clash actuel, par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait, parce que ça serait au détriment aussi des habitants qui, Grenoble ayant moins d'aide de la région, il y aurait forcément des pénalisations dans les projets de développement. Donc, j'espère que ça n'est que pour un temps et j'espère que, une fois la justice passée et tranchée, les choses s'arrangeront et qu'il y aura à nouveau un soutien équitable de la région par rapport aux habitants de Grenoble qui ne demandent sûrement rien. Vous savez que c'est passé très juste au conseil municipal, hein, même au sein de la majorité d'Éric Piolle, donc on voit bien que c'est très controversé. Je pense qu'à l'heure d'une guerre à nos frontières, à l'heure où on assiste aussi à une hausse des coûts, hein, liés notamment à la guerre et au Covid, peut-être des choses plus importantes, quoi. Et voilà, l'histoire de maillot de bain, encore une fois, c'est pas anodin parce qu'il y a une connotation religieuse, mais enfin, je pense qu'il y a mieux à faire en France en ce moment pour s'occuper de nos habitants, notamment pour les élus.
Eh bien, je vous remercie pour vos réponses à propos de cette polémique. À présent, on va s'intéresser à une autre, qui est celle de Damien Abad. Donc, récemment, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées est au cœur d'une nouvelle polémique, car il est accusé d'agression sexuelle. Pensez-vous qu'il doit être suspendu de ses fonctions, car cela peut nuire à l'image de notre pays? Ou êtes-vous en accord avec le principe de présomption d'innocence?
Oui. Je pense qu'il doit être sacré. C'est pas très laïque ce que je vous dis, mais il doit être sacré, le principe de présomption d'innocence. Pour tout le monde. Parce que tout le monde peut se retrouver dans une situation d'être accusé à tort. Et si on doit tout vous enlever parce que vous êtes simplement accusé, et puis finalement, une fois qu'on va découvrir que vous n'êtes pas coupable, souvenez-vous d'une ancienne affaire comme celle de Dominique Baudis, vous étiez peut-être un peu jeune, mais qui était le maire de Toulouse, qui était un ancien journaliste qui a été accusé d'affaires de mœurs très délicates et qui a dû démissionner. Souvenez-vous d'Éric Woerth, et je ne suis pas spécialement une connaissance d'Éric Woerth, mais qui a été obligé aussi de quitter ses fonctions pour finalement être innocenté. Est-ce que c'est juste? C'est aussi injuste d'être accusé injustement que d'avoir commis et de ne pas être condamné si on a commis des faits. Voilà, je pense que les deux, c'est terrible. Et donc, moi, en tant qu'avocat, je suis très attaché à la présomption d'innocence. Donc, la règle, c'est on prouve que quelqu'un est coupable. S'il est coupable et condamné définitivement, effectivement, il y a des conséquences et une personne publique n'a plus à occuper des fonctions d'élu. D'ailleurs, la justice peut interdire une présentation, une élection, ou en tout cas de tenir un mandat dans ces cas-là. Tant qu'on n'a pas ça, imaginez-vous que tout le monde veuille régler ses comptes et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les médias qui s'intéressent qu'à ce qui ne va pas et à salir les gens. Moi, je rêve d'un principe qui est peut-être utopique, c'est que toute affaire en justice pénale, tant qu'elle n'est pas jugée, on n'en parle pas. Parce que Voilà, il y a des pressions. Malgré tout, les magistrats sont des hommes ou des femmes. Quand il y a une affaire très médiatique, bah, de temps en temps, il peut y avoir une tendance à prendre une décision qu'on ne prendrait peut-être pas s'il n'y avait pas cette pression. Donc finalement, les gens qui sont exposés publiquement, ils ne sont pas égaux devant la justice. Parce que des fois, ils font les frais de cette pression. On dit qu'il faut calmer le jeu, on va prendre une sanction, peut-être plus forte, peut-être différente, etc. Donc je pense qu'il faut... Oui, vous savez, c'est jeter en pâture les gens. Et moi, je me rappelle en tant qu'avocat, des clients qui n'étaient pas forcément des élus, qui étaient accusés de choses, qui ont prouvé l'innocence. Jamais ils ont retrouvé... si je puis dire, leur virginité, ou en tout cas leur honneur. Parce que vous savez, dans l'esprit des gens, se dire, bah oui, mais peut-être qu'il y avait, on n'a pas démontré, mais il est peut-être bien coupable encore. Et puis en général, quand vous avez une affaire qui sort, vous avez 4 pages, et puis quand la personne est innocentée, vous avez 3 lignes, s'il y a un peu de chance. Et finalement, ces gens-là, ils portent ça toute leur vie. Donc il faut faire attention. Moi, je ne connais pas M. Abad, hein, je ne sais pas du tout s'il est coupable, pas coupable. Vous savez qu'il présente un handicap qui n'est pas évident par rapport à ce qu'on lui reproche non plus. Hein, donc j'essaye de faire la part des choses. Très clairement, on ne va pas faire de langue de bois ici, que ça sorte en plein moment où il est nommé ministre, il y a quand même quelque part un règlement de compte politique. Je ne sais pas si ça vient de son ancienne famille LR, je ne sais pas d'où ça vient. Une femme qui subit ça, ou un homme parfois, hein, mais qui subit ça, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable en plus quand, s'il y a une pression de l'élu, ou pas d'ailleurs, mais ce n'est pas acceptable de quiconque. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas fait, qui est accusé 12 ans après pour les premiers faits de 2010, dans des conditions, si on regarde ce qui est donné, parce qu'encore une fois, on parle de dossiers qu'on ne connaît pas. Un dossier, il y a le secret de l'instruction. À partir du moment où il y a un juge d'instruction qui est saisi, il y a le secret de l'instruction. Je ne crois pas qu'il y ait encore de juge d'instruction qui soit saisi aujourd'hui, mais il y a le secret de l'enquête quand même. Et donc, moi, je suis toujours étonné d'entendre des journalistes qui vous déballent la déposition d'un tel, d'un tel. J'imagine aussi, quand on subit ça, bah, on n'attend peut-être pas 12 ans, ou on n'attend peut-être pas que la personne soit mise. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il est coupable ou innocent. Je réagis juste par rapport à une réflexion, si je puis dire, avec moi-même. Et puis, faut considérer que n'importe qui peut se retrouver dans une situation soit de victime pour de vrai, soit d'être accusé à tort, et c'est aussi dangereux que je disais tout à l'heure. Donc, ce qui nous protège de cela, je suis un peu long sur mon développement, mais ce qui nous protège de cela, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable. C'est dans notre constitution. Et ça serait bien que notre constitution, elle ne soit pas mise à mal par la presse, par des journalistes. J'ai rien contre les journalistes à la base, mais il y a des excès aussi. La presse, elle est comme tout le monde, elle a ses limites. Et pour moi, la limite d'une affaire pénale, c'est de ne pas en parler tant que l'affaire n'a pas été jugée. Si c'est classé sans suite, il n'y a jamais de jugement et personne ne doit le connaître. Si c'est poursuivi, l'audience est publique, et là, les gens vont assister à un procès, et en fonction du jugement qui sera rendu, on en tirera les conséquences. Donc voilà, que ce soit Damien Abad, un autre, un élu, pas un élu, une femme, un homme, on doit veiller à cela. Et aujourd'hui, on devient... notamment grâce à cause d'une certaine presse, on tombe dans un principe de, pas de présomption d'innocence, mais de présomption de culpabilité. Et c'est pas simple de se défendre face à cela. Donc voilà, moi, je vous l'ai bien compris, je prends pas parti, je ne connais pas le dossier, et je suis trop avocat pour le savoir. Pour bien parler d'un dossier, il faut le connaître. Je suis pas l'avocat de M. Abad ni de la victime, donc j'en dirai pas plus. Mais sur le principe d'innocence, on peut pas transiger ou dire parce que c'est un élu, ben on le met dehors, et puis tant pis pour le principe d'innocence. Donc moi, ça me choque pas en l'état qu'il soit encore ministre tant qu'on n'a pas démontré qu'il était coupable.
Nous allons attendre la réponse de la justice pour voir comment cette affaire évolue. Et pour finir cette interview, ma camarade et moi voulons parler de l'environnement, un enjeu majeur dans le monde actuel. Donc pouvez-vous nous parler des initiatives prises par l'agglomération, mais aussi des projets possibles afin de réduire l'empreinte carbone de notre ville?
Oui, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais... pour moi, l'environnement, c'est déjà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas une couleur politique. Voilà, c'est à tout le monde, et c'est surtout pour moi une question d'éducation. Voilà. Que les parents, par exemple, apprennent déjà à leurs enfants à pas jeter les papiers par terre, la ville serait plus propre et mes agents peineraient moins à ramasser, parce que quand ils sont adultes, ils continuent. Hein. Et aujourd'hui, moi, je dis toujours, quand on me dit la ville est sale, parfois, la ville, elle est jamais sale. Quand tout le monde était covidé chez soi, était très propre. C'est les gens qui sont sales. Donc ça, premièrement, sur la propreté, on a fait de gros efforts. C'est jamais assez, parce que voilà, il y a des gens, il faut être derrière eux à chaque fois. Plus vous mettez de corbeilles, plus les gens mettent les déchets à côté. Quand vous mettez des poubelles enterrées, les gens mettent leur verre aussi, parce que certains sont des feignants et veulent pas aller jusqu'au truc à verre. C'est très compliqué quand vous êtes élu de gérer la propreté d'une ville. Mais je voulais saluer tout le travail qui est fait au petit matin. Et vous voyez, ce matin, j'étais encore, je suis allé courir à 6 heures, donc ça me permet de voir les agents, et notamment ceux qui font le travail travail parfois ingrat. Et je les remercie à chaque fois au nom des Neuversois, parce que voilà, ce sont des gens courageux qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Ils sont sur le terrain, ils nettoient la ville, ils refont ce qui est défait par les gens la veille. Donc c'est très ingrat. Et je voudrais que chacun prenne conscience de ça, parce qu'un tout petit geste, c'est pas grand chose, mais ça éviterait. On a fait une campagne un peu ironique. Ça s'appelle Les Affreux de ma rue. C'était pour montrer que voilà, bah, c'est la part de chacun. Vous savez, la petite part du colibri, c'est aussi le domaine de l'environnement. C'est comme ça qu'on évite après que ça dégénère dans des tas de choses. Après, sur l'environnement, on a la chance à Nevers d'avoir un bel environnement naturel qu'est la Loire. Toutes les villes de notre taille n'ont pas un fleuve. Malheureusement, il faut souvent le nettoyer. Il y a des initiatives qui sont prises notamment par des jeunes ou des associations pour le faire. Nous, on le fait aussi avec l'État parfois. Mais un fleuve n'est pas un dépotoir. Quand vous voyez, pour l'instant, on n'a pas de petite trottinette à Nevers, et certains me disent que ce serait bien qu'il y en ait, mais on a des vélos, des vélos électriques, des GB, vous savez, les véhicules québécois un peu sur où on vous voit de loin, donc ils sont plus sûrs, et ça évite que ça soit jeté dans le fleuve. Mais quand vous voyez le nombre de trottinettes jetées à Paris dans la Seine, c'est épouvantable, quoi. Voilà. Alors, pour quelque chose qui est développement durable, avec une trottinette où on évite de polluer en se déplaçant, finalement, on pollue les cours d'eau en l'achetant de la part de certains imbéciles. Alors, je dis pas que tout le monde le fait, mais malgré tout, c'est ainsi. Et puis, sur notre politique environnementale, on a replanté énormément d'arbres. Énormément d'arbres. Et là, on aurait un projet de mandat qui serait de planter autant d'arbres que d'habitants. Mais il faut savoir que des fois, on est obligé d'en abattre. Et c'est toujours un crève-cœur. Soit parce que il y a un projet, on ne peut pas garder l'arbre. Soit parce qu'il y a des arbres qui sont malades. Et les arbres, ils ont des durées de vie, hein, comme les êtres humains. Parfois, certains sont malades. Parfois, certains risquent de tomber sur des gens. Donc, on se doit aussi de veiller à l'entretien de notre parc végétal. Vous le savez aussi, il n'est pas assez connu. Et j'invite les lycéens à aller au parc Rosa Bonheur, qui est au bout des Courlis, où c'est un parc sympa, faire du vélo, courir, se reposer, marcher. C'est à côté de la Loire. Et donc, on est en pleine nature. Donc, on a la chance aussi d'avoir une bonne qualité de l'air à Nevers. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en occuper, parce qu'il faut qu'elle reste bonne. Et donc, l'incitation aux véhicules électriques ou hydrogène, mais pour l'instant, ça reste encore très cher, donc il y en a peu, est une chose, notamment pour les petits véhicules en ville. Il faut qu'on ait plus de bornes. Ça dépend de la région. J'essaye de peser pour qu'on ait plus de bornes. On n'a pas assez de bornes à Nevers pour inciter les gens à l'achat de véhicules électriques. Donc, ça passe aussi par une politique incitative de transport en commun. On a beaucoup développé le réseau de transport en commun. Alors, ça conviendra jamais à tout le monde, hein. Vous mettez un arrêt de bus là, il est trop près pour l'un, il est trop loin pour l'autre. Bon, c'est comme ça. Mais globalement, on a repris une belle activité depuis la Covid et on a de plus en plus d'abonnés et des réseaux de plus en plus performants qu'on va encore retravailler. Donc, utilisons aussi les transports en commun. Nous travaillons au niveau de l'équipe des parkings relais d'entrée de ville. Voilà. Par exemple, il y en aura avenue Colbert. L'ancien Super U va être repris pour un bel hôtel. Il y a un beau projet derrière tout cela. Une piscine, un sauna ouvert au public, etc. Donc, ça va être un bel outil. Et donc, vous savez, il y a l'ancien parking en dessous. On va s'en servir, réserver des places pour que les gens continuent leur parcours à pied ou en GB ou en vélo. Voilà. C'est ça aussi. C'est travailler les mobilités de façon différente et petit à petit, enlever la voiture des villes. Nous allons lancer la piétonnisation de la rue des Ardiliers. Je sais que c'est un sujet. À partir de vendredi 10 juin après-midi, tous les vendredis après-midi et samedi, jusqu'à la rentrée, on va tester, expérimenter une piétonnisation pour justement préserver le bâtiment, hein, plus d'1,5 million pour faire notre arc de triomphe. Et puis, aujourd'hui, la place d'Aristance est devenue un pôle intéressant. Beaucoup de gens viennent se reposer, se détendre, boire un verre. Et donc, cette petite partie de la rue des Ardiliers, on va bien sûr laisser l'accès à la rue de la Préfecture, au parking Saint-Pierre, qui est sous-utilisé. Il faut que les gens utilisent les parkings souterrains. Vous allez dans beaucoup de villes aujourd'hui, la piétonnisation, elle est bien plus grande. Et donc, on va y venir. Mais on travaille des aménagements pour tour de ville. Les gens laisseront leur véhicule et finiront à pied. Il faut qu'on arrive à faire des progrès. Pas besoin forcément de se garer pile devant le commerce pour les gens valides. Pour les gens qui sont moins valides ou âgés, on trouvera des solutions de navette. Il y a déjà la coursinelle qui s'arrête partout où on veut sur son trajet. On monte, on descend partout, je le rappelle. Donc, vous voyez, c'est inciter à changer d'habitude. Et ça, c'est très compliqué pour le Nivernais comme pour le Français. Ils veulent bien qu'il y ait des changements, mais il ne faut pas que ça concerne pas tout le monde, mais certaines personnes. Donc, nous, on va un peu aider les changements, puis on va essayer. Puis si ça ne marche pas, bon, on reviendra, on trouvera une autre solution. Donc, c'est inciter à cela. Et puis aussi, je voudrais... Voilà, par exemple, vous savez, on est au quartier du Banlay, qui 72 millions d'euros d'investis, il n'y a jamais eu autant dans un quartier, mais il y a une bonne partie sur l'environnement. Par exemple, on a été retenu dans le projet quartier fertile. C'est-à-dire qu'à un terme, on aura peut-être une ferme urbaine, on aura peut-être des plantations, des cultures, on va combler ce qu'on appelle la trémie, c'est-à-dire le creux sous l'école Blaise Pascal, et donc on mettra aussi un réservoir d'eau, récupérer l'eau, ça c'est un enjeu énorme, et l'eau c'est l'environnement. Et moi je dis que l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été, on va vivre encore une sécheresse vraisemblablement cet été, c'est déjà commencé dans certains endroits, il faut qu'on arrive à faire des réserves d'eau, que nos bâtiments publics prennent l'eau qui tombe l'été, puis la garder pour la redonner l'hiver. Il faut que les nouvelles maisons, on n'ait peut-être plus besoin d'eau potable pour les toilettes ou arroser le jardin, mais de l'eau propre ou de l'eau retraitée. c'est pas très glamour, comme je le dis, mais il y a certains pays, comme Israël ou d'autres, les eaux sales redeviennent de l'eau potable. Aujourd'hui, on a des façons de traiter, et l'eau, on va en manquer. Ça sera un phénomène de guerre, de mobilité, de migration, etc. Donc, il faut qu'on prenne soin de la nature. Voilà. Moi, vous voyez, je suis pas écologiste sur le papier politique, mais je pense que j'ai toujours été initié à respecter l'environnement, nos ressources qui vont se raréfier de plus en plus. Ça, ça passe avant tout par l'éducation. Je suis convaincu de cela. Et manifestement, on voit que certains n'ont pas eu le respect de l'environnement et de la nature. Après, en tant qu'élu, effectivement, on développe, on arbitre des budgets. Je rappelle que Nevers a reçu la quatrième fleur. Et peut-être qu'un jour, on ira chercher la fleur d'or. On a une visite cet été pour voir où on en est, parce que c'est comme un audit. On est véritablement régulièrement surveillé. La quatrième fleur, c'est quoi? Ok, c'est un panneau à l'entrée de ville. Il faut savoir qu'il y a que petitement 400 villes en France sur 34 000 communes. Vous voyez, c'est quand même... Et des villes de notre taille, il y en a très peu. C'est souvent des petits villages, c'est plus facile à entretenir. C'est pas forcément mettre des fleurs partout qu'il faut arroser tous les jours quand il fait chaud. C'est au contraire avoir une autre vision de la façon dont on traite les fleurs. Si vous avez Place Carnot, il y a une période de l'année, c'est tout jaune. Mais c'est normal, parce que ce sont des plantations qu'on a mis qui puissent être le plus possible en autosuffisance, en consommant moins d'eau. Il y a une partie de l'année où, effectivement, elles jaunissent, il faut l'accepter, puis après on les retaille, etc. Donc on vit au rythme de la nature. Il faut de plus en plus vivre au rythme de la nature, sans tomber dans des choses trop bloquantes non plus. Donc vous voyez, si je résume ce qu'on porte en politique environnementale, c'est maintenir une bonne qualité de l'air, inciter d'autres modes de mobilité pour respecter cette qualité de l'air. On a la chance d'être à 5 minutes de la nature, de la campagne, mais on a aussi la nature en ville. Je travaille aussi sur une étude pour le parc Salingros, qui est un formidable endroit où les petits apprennent à faire du vélo, font des jeux là-haut, les seniors viennent se reposer, lire un livre, et il manque aussi des activités pour des adolescents ou des classes d'autres âges. Donc on va essayer de proposer plus d'activités dans un lieu qui est formidable pour une ville comme Nevers, et puis de plus en plus sur le fleuve. D'ailleurs, nous avons la fête de la Loire ce week-end des 4 et 5 juin, donc faut en profiter. Maintenant, c'est tous les deux ans, il y a déjà des bateaux qui sont arrivés, et c'est une façon de fêter la nature. Et puis, j'oubliais, mais on va organiser quelque chose d'assez original. Alors je crois que c'est l'année prochaine ou 2024, je ne sais plus, on va organiser un grand comice au niveau de l'agglomération. Vous savez, les comices agricoles, on les trouve plutôt dans les campagnes, les villages, ça tourne. Nous, on va le faire sur l'agglo, pour montrer aussi qu'une agglo, elle est urbaine, périurbaine, mais elle est aussi dans un département rural, et on va faire de la transhumance, on va faire venir des animaux, on va utiliser le site de Nevers Plage, voilà, et toutes les communes de l'agglo, voire d'autres, vont s'y mettre. J'ai l'accord d'Alain Bougrain-Dubourg pour être le parrain, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à l'environnement, à la nature, et qui j'ai sympathisé, aux animaux bien évidemment, et aux oiseaux encore plus. Donc voilà, je pourrais dire certainement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'oublie. On pourrait faire un sujet que sur l'environnement et Nevers. Mais vous voyez, on a une équipe qui est vraiment sensibilisée à cela. Il n'y a pas besoin d'avoir une patte écologique. Encore une fois, j'ai des anciens écologiques aussi, écologistes dans mon équipe. Mais je pense que c'est surtout une question de responsabilité de chacun. La nature, c'est l'affaire de chacun. Le respect des ressources, c'est l'affaire de chacun. Et donc, veillons à se transmettre les bonnes pratiques et puis en changer. Je pense qu'aujourd'hui, on gaspille encore beaucoup trop d'eau, je vous l'ai dit, et l'eau, ça doit être vraiment l'enjeu de demain. J'en profite pour dire, et j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes, y compris des lycéens, que le 1er octobre, nous serons dans la semaine du développement durable. Et donc, je vais proposer une réunion à 10h, 13h, pour mettre les gens face aux ce qu'on appelle les transitions. Voilà, les transitions numériques, transitions digitales. Alors, moi, j'aime plus dire transition. Une transition, c'est temporaire. On va faire le forum des transformations. Pour dire aux gens, vous voulez plus de pistes cyclables, d'accord. Par contre, votre parking, il sera plus là. Enfin, le vôtre, c'est pas le vôtre d'ailleurs. Mais on va le changer. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter cette contrainte ou pas? Qui n'est pas forcément une contrainte, mais un changement d'habitude. Sur l'énergie mixée, on est prêt à faire du photovoltaïque. Mais par contre, vous ne mettez pas une pétition parce que vous verrez des panneaux à 100 mètres. Au bout d'un moment, vous voyez, beaucoup de donneurs de leçons, hein, y compris chez les verts excessifs. Et puis quand il faut faire, bah, il n'y a plus personne parce qu'il faut que ça soit chez le voisin. Ben non, si, on doit tous prendre notre part et accepter des changements de comportement, de stationnement, de voir parfois de l'éolien, du petit éolien, ça se fait aussi beaucoup. En Allemagne, pas obligé d'avoir des grandes pales à côté. Bon, on est moins concerné de nous parler éolien, mais du photovoltaïque ou d'autres choses. Donc, je voulais juste te dire ça. L'idée, c'est de mettre les gens face à leurs responsabilités, de les écouter, de leur dire nous, élus, on est prêts à mettre des budgets là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Si vous n'êtes pas prêts, on n'ira pas. On va prendre du retard, mais on n'ira pas. Voilà, moi, je ne vais pas me battre contre des moulins à vent, c'est le cas de le dire en matière d'énergie. Mais on est à des transformations notables. Si on ne prend pas les bons tournants tout de suite, on le regrettera. On le regrette d'ores et déjà. Peut-être de ne pas l'avoir fait avant. Le retard ne se rattrape jamais, mais de ne pas en accumuler d'autres est important.
Et ben, je vous remercie pour vos réponses. C'est la fin de cette interview. Vous étiez en compagnie de Lily et Mathéo et vous êtes toujours sur BAC FM 106.1.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.